Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Soyez les bienvenus dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org, comme la plupart des dimanches à 22h, parce que ce n'est pas tous les dimanches, mais on essaye au maximum d'être là. On va préciser tout de suite que cette émission est enregistrée, cause confinement, et que donc en fait, elle est enregistrée le samedi, et nous sommes samedi 5, et il est 15h42, exactement, voilà, donc c'est pour ça que nos voix sont en meilleure forme que d'habitude.
Contrairement au dimanche soir.
Voilà, exactement. Alors, pour nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com hein, sur Internet. Sinon, on a un blog à blogs.radiocanu.org. Alors, blogs au pluriel, B-L-O-G-S. /lacauserie, après le radiocanu.org. Et sinon, tu vas sur le site de Radio Canu et tu nous trouveras au milieu des émissions, sûrement si tu cherches du côté de La Causerie. Et ce soir, nous avons autour de cet espace virtuel, MK.
Hello,
Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab, donc, qui s'est lancé à fond, quoi, dès le départ.
Ouais, on m'a dit, fais le lancement, je fais le lancement.
Ah, tiens, allez, à fond.
Et sinon, on va préciser quelque chose, c'est que ce soir, en fait, dans l'émission, vous entendrez une seule et même artiste qui va habiller musicalement l'émission. Il s'agit d'Anne Sylvestre, hein, qui malheureusement nous a quittés en début de semaine. Et Anne Sylvestre, c'était juste une génie de la chanson, et tout simplement, sous-estimée. Souvent comparée aux hommes, parce que bien sûr, comme c'était une femme, elle ne pouvait pas être un génie, hein, ou une génie évidemment. Donc du coup, c'était tout ça. Et puis Anne Sylvestre, c'est une grande chanteuse féministe, une grande chanteuse progressiste, une femme de caractère, et ça, ça fait du bien dans un monde où les gens en manquent, globalement. Et elle va beaucoup nous manquer, même si elle est morte à 86 ans et que ça arrive, mais voilà, c'est quand même des gens qui marquent une époque. Donc on s'est décidé tous ensemble de lui rendre hommage à travers quatre titres dans cette émission.
Ouais, vite fait, mais c'est pas parce qu'elle est morte, c'est aussi ça la beauté de l'art, c'est que l'art continue. Et que MK, comme moi, en fait, on a découvert cet artiste sur le tard, hein, plus ou moins tard, selon le titre. Et en fait, c'est ça aussi l'art, en fait, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et que, oui, effectivement, c'est toujours plus cool de pouvoir voir une artiste en scène, etc. Sauf que quand elle n'est plus là, il reste son art, et que c'est aussi ça le truc. Donc, n'hésitez pas à découvrir encore et toujours Anne Sylvestre.
Et un des avantages d'Anne Sylvestre, c'est qu'elle a aussi bien fait des chansons pour enfants que des chansons pour adultes. Donc, vous pouvez la faire écouter toute la vie des gens. Donc,
profitez-en et
faites-le.
C'est ça.
Et on va démarrer cette émission. Alors, juste, j'ai oublié de dire qu'on peut retrouver le blog, les podcasts, tout ça, sur aussi d'autres plateformes que Radio Canu. Et voilà qui est fait. Vous cherchez sur Internet, vous allez nous trouver La Causerie Canu. MK,
exactement.
Ça va être à toi.
Et toi, je vais démarrer.
Ouais, et tu veux nous parler « As soon as possible », c'est ça, non?
Mais oui, tu viens juste de casser mon délire, là, dans l'émission.
C'était
c'est
pas
voulu. grave. Mais non, j'aurais dû vous briefer là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est ma faute. La prochaine fois, je ferai plus attention. Alors, je vais commencer, hein. Faites comme si vous n'avez rien entendu, hein, le petit spoil. Alors, la loi ASAP, ou autrement dit SAAP, Kezako. First of all, do you speak English? Non, non, c'est du franglais, vous l'auriez bien deviné, effectivement. Ça fait plus jeune, ça fait plus moderne, et c'est dans l'air du temps. Et puis, on est d'accord, ça embrouille, hein? Surtout quand on a des intentions premières différentes. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire SAAP? Ça veut dire as soon as possible. En français, aussi vite que possible. Du coup, mais pour le gouvernement, en fait, cet acronyme, ça veut dire accélération et simplification de l'action publique. Bah, je vous le donne en mille, hein, à votre avis, à qui ça va profiter tout ceci?
Aux riches.
Voilà. Bah, c'est bien ça.
Aux industriels.
Entre autres, par exemple. Hein.
C'est génial.
Mais on a encore plein d'exemples comme ça. Hein. Le MEDEF aussi, non?
Bah ouais, forcément.
Au MEDEF, je l'avais oublié celui-là.
En gros, leur credo, c'est accélérant et simplifiant. Au nom, bien évidemment, du capitalisme et de l'économie, hein, en sacrifiant au passage, hein, l'environnement, la petite enfance, et une atteinte aux droits des citoyens. Alors, par quoi je commence? En fait, il y a tant de choses à dire sur cette loi. Hein. Je ne vais pas tous les énumérer. Hein. Dont le contenu est dense, mais je vais démarrer déjà pour bien situer par le calendrier. En fait, c'est un projet de loi là qui est dans la continuité de ces fameuses lois que l'on connaît depuis une certaine décennie, qui servent notamment à simplifier un petit peu tout ce qui est côté administratif. Hein. C'est très connu en France. Et ce projet de loi en fait est porté par ce gouvernement en fait depuis presque un an, avec des passages, hein, comme vous connaissez, entre l'Assemblée nationale, le Sénat et tout ça. Et à chaque fois, en fait, dès qu'il y a un passage, on rajoute des amendements. Plein, plein, plein. On était passé à quelques dizaines au début pour finir à 149 articles. Et jusqu'au moment où, en fait, ça a été donc présenté donc au Parlement, du coup, en septembre, et adopté là récemment, fin octobre, avec ces 149 articles.
On va préciser, donc ça a été adopté fin octobre, là
De 2020, oui.
en pleine période de pandémie,
Voilà, exactement.
au moment où finalement c'est très compliqué de suivre tout ce qui se passe, ça tombait plutôt bien.
Oh, oui, j'allais rajouter, mais c'était un petit peu osé. Mais bon, on va prendre Dixit, une humoriste lyonnaise sur un plateau télé qui avait dit, en fait, que je vais reprendre un peu sa phrase. Cette loi ASAP, c'est un peu ni vu ni connu, je t'en hule.
Mais alors, je vais me jouer l'avocat du diable ou l'avocat des puissants. Peut-être que nos gouvernants, ils pensent à la reprise, justement, qu'on ne soit pas embourbé dans toute cette
Non,
administration.
ben oui, vous nous
Ah,
faites
c'est
oublier
ça.
les choses, ne pensez à rien,
Tout va
détendez-vous,
bien.
applaudissez les soignants, nous on s'occupe de tout, vous s'occupez de rien.
Exactement ça.
Donc je disais finalement, ce projet de loi a été adopté dans son entièreté hein, par le Parlement, parce que des fois il y a des amendements qui peuvent être supprimés. Là non, on a décidé de tout prendre hein, de A à Z. Alors par chance, et là ça reste uniquement de la chance, hein, car il ne faut vraiment pas compter là-dessus, hein, il y a certains députés, hein, à peu près une soixantaine, qui ont en fait déposé un recours au Conseil constitutionnel pour rétoquer ce projet. Et en fait, ce Conseil constitutionnel a donné, malheureusement, j'allais dire, ou heureusement, ça dépend des points de vue, un avis favorable au 3 décembre. Donc, c'est il y a quelques jours, il y a 3 jours, en fait, finalement, ils pensaient rétoquer le projet de loi, mais les sages, entre guillemets, de la Constitution ont approuvé. Mais au passage, ils ont quand même voulu supprimer, ils ont quand même supprimé 26 articles, parce qu'ils étaient considérés comme des cavaliers législatifs. Mais qu'est-ce que le cavalier législatif? Alors, il y a un petit indice, hein, il y a le mot cavalier, ça fait un peu penser à un cheval de Troie, mais c'est exactement ça. En fait, un cavalier législatif, c'est un article de loi qui introduit des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité pour le projet de loi. Ces articles sont souvent utilisés afin de faire passer des dispositions législatives sans éveiller l'attention de ceux qui pourraient s'y opposer. Mais bon, ces articles ont été rétoqués, ce n'est pas les plus importants, malheureusement.
Non, vite fait, ce que je me disais, c'est quand même génial, c'est qu'ils sont arrivés à trouver un nom à la roublardise des politiciens, parce que c'est juste de la roublardise, en fait. Enfin, c'est
Oui.
vouloir arnaquer les gens au départ. Et on a trouvé un petit nom comme ça, c'est sympa. Alors
Ouais,
que quand
mais
même,
voilà.
la manière de faire est juste dégueulasse, quoi. Enfin, bref,
Alors,
pardon.
Non, mais pour citer un exemple, là, c'est quand même le deuxième fois dans l'histoire où il y a autant d'articles qui ont été supprimés, des articles de dits cavaliers législatifs, quoi. Je crois que la dernière fois, ça remontait à plus de 20 ans. Et là, on est quand même sur du gros lourd, quoi. 26 articles, c'est énorme. Alors, certains auraient mérité de rester, hein, mais pour le coup, ça allait un peu profiter aux Français. Ça a été rétoqué. Par exemple, c'est un article qui prévoyait une obligation par les banques d'informer ses clients, par exemple, sur la faculté et les modalités de résiliation, un peu faciliter, de pouvoir permettre de résilier et de profiter d'un meilleur taux dans d'autres contrats d'assurance emprunteur, et de mettre les choses un peu plus claires, avec une date d'échéance à prendre en considération. Il imposait aussi également la nécessité de motiver les refus et multiplier par 10 les sanctions contre les banques en cas de manquement. Ça a été retoqué, pardon. Non. En fait, en vrai, quand il y a eu ces 26 articles en moins, ça n'a pas fait forcément avancer, ça n'a pas été une grande avancée. En fait, c'est un peu comme une ruse, hein, du gouvernement, hein, pour paraître proche du peuple. Par exemple, cette lutte pour le renforcement de la lutte contre les squatteurs, ça on en parlera après, qui est quand même passé entre les mailles du filet. Ça, par exemple, ça aurait pu être retoqué, mais non, ça a été adopté.
Tout ce qui allait finalement dans la protection de la propriété privée, de l'industrie, tout ça est resté. Tout ce qui allait dans l'intérêt particulier des citoyens, comme on dit, a été retoqué finalement.
Oui, mais on est bien dans un article qui ne correspond pas au projet de loi à la base, et pourtant ça a été accepté. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Excite aussi, par exemple, la participation financière de personnes, de tierces personnes, par exemple de capitaux, pour la réalisation d'ouvrages, par exemple aux autoroutes, ne pas que ce soit l'État qui finance 100% des autoroutes pour ensuite le donner en concession à des capitalistes, à des entreprises. Il y a aussi la pratique, on parle aussi de pratiques sportives dans les espaces naturels et l'usage de faux certificats médicaux. Ça a été retoqué. On aurait quand même eu besoin de lois pour pouvoir un peu mieux cadrer tout ceci. Donc voilà, en fait, sur les 149, donc il y en a 26 qui ont été supprimés. Je vais un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait, avec ce projet de loi ASAP, le gouvernement en fait continue à défaire le droit de l'environnement. Et je vais commencer par ça. En fait, dans l'ordre, le projet de loi commence en fait par son titre premier, hein, par la suppression de 18 commissions administratives. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, on parlait de toutes ces instances qui permettaient de donner un peu la voix aux citoyens. Là, pour faciliter un petit peu ce millefeuille administratif, l'État a décidé de le supprimer. Plus besoin. On passe directement aux choses sérieuses. Et ces assemblées en fait consultatives sont en fait souvent composées d'élus, de diverses personnalités ou des citoyens qui sont donc évincés pour raccourcir en fait les délais en supprimant donc les consultations devenues purement formelles. Ainsi passe à la trappe par exemple une commission chargée d'évaluer le coût du démantèlement du nucléaire et de ses déchets. Ensuite, on a un gros morceau aussi qui se trouve dans le titre 3. Si vous avez l'occasion, vous allez sur Internet, vous allez avoir tout le rapport, hein, tout ce projet de loi. Donc, ce titre 3 qui est sur la simplification des mesures applicables aux entreprises, voilà, et plus précisément donc aux sites industriels. En fait, lorsque ceux-ci veulent s'implanter, normalement, ils doivent, en fonction de leur dangerosité, hein, donner des garanties de sécurité, évaluer les risques sur la santé et l'environnement, consulter les riverains. Et en fait, les articles de 21 à 26 du projet de loi va gommer tout ceci, va gommer toutes les étapes dans ce processus pour toujours plus d'industrie et donc plus de terres bétonnées. Et il y a un article aussi qui est très contesté, c'est l'article 25 qui donne la possibilité au préfet, hein, qui est donc choisi par le gouvernement. C'est bien cela?
C'est le représentant de l'État au niveau régional.
Voilà, exactement. Dans certains cas, pardon, ce préfet peut dispenser l'industriel d'enquête publique. Soyons fous, et de le remplacer par une simple consultation publique en ligne. On sait que ce n'est pas la même chose, hein, et elles sont très, très, très différentes. L'enquête publique est menée par un commissaire enquêteur qui organise des réunions publiques, accueille les riverains, recueille les remarques, rédige des rapports, etc. Alors que la consultation en public se passe uniquement en ligne. Et comme vous l'avez compris, ceux qui ont Internet, il y a ceux qui ont Internet et ceux qui n'ont pas. Il y a ceux qui arrivent à donner leur opinion en ligne et les autres. Et il ne faut pas oublier que cette enquête publique est à la charge de celui à qui va profiter en fait l'installation de ce site industriel.
En fait, on faisait payer par l'industrie qui voulait s'installer tous les frais qui étaient en lien avec l'enquête publique. Et c'était
Voilà.
normal, parce qu'après tout, ça fait partie des frais d'installation. Sauf que ce qui énervait les industriels, c'est qu'une enquête publique, parfois, eh ben, quand ça soulevait des doutes, ben, fallait recommencer. Ou alors, il fallait que l'industriel il démontre quelque chose qui... ah oui, on n'avait pas pensé à ça, donc il fallait qu'il revienne. Et là, en fait, la différence, c'est qu'une consultation ne peut pas relancer quelque chose. Elle n'a pas de valeur juridique, elle n'a qu'une valeur consultative. Donc, du coup, c'est assez intéressant de voir que ben, on va simplifier la vie de plein de gens très sympathiques.
Oui, en fait, on va se passer de la vie des riverains, notamment, par exemple. Il y a un article pas mal aussi qui est le suivant, le 26. Alors lui, c'est le pompon de la pomponnette. Un joli doigt d'honneur, en fait, sur le droit de l'environnement. Il prévoit que les travaux pourront commencer avant même que l'autorisation environnementale ne soit délivrée. Il sera donc possible de détruire à coup de bulldozer la biodiversité avant d'avoir l'autorisation de le faire. Autrement dit, en fait, bon, on va faire du mal. Et une fois qu'on n'aura pas eu l'autorisation de le faire, bah, ça sera trop tard, en fait.
Et en plus, si je me souviens bien, c'est souvent justement ce qui faisait que des gens pouvaient lutter contre, en fait. C'est-à-dire que d'un coup...
Ça pouvait bloquer des projets, tout
à fait. C'est-à-dire que d'un coup, les gars venaient dans l'illégalité, commençaient à bétonner ou à couper, etc. Et les gens disaient non, mais là, il faut arrêter. Donc là, en fait, on inverse complètement le truc. C'est-à-dire ce qui était illégal avant devient légal maintenant. Et ce qui finalement était légal avant devient presque illégal, quoi. C'est-à-dire qu'on crée un truc devient presque illégal parce que faudra attendre les instances.
Pour donner un exemple, ouais. Bah, allez, vas-y, je t'écoute pour l'exemple.
Bah, pour donner un exemple local, le Center Park de Roibon, il existerait aujourd'hui si cette loi avait été passée.
Voilà.
Parce qu'ils avaient commencé à couper les bois avant même d'avoir l'autorisation de le faire. Et c'est ce qui a permis d'arrêter les chantiers légalement, parce que c'est un juge qui avait bloqué les choses. Et donc là, en fait, avec cette loi, ils auraient pu continuer tranquillement à faire le Center Park pour à la fin qu'on dise « Ah non, d'un point de vue environnemental, c'est pas bon, mais enfin maintenant qu'il est là,
c'est trop tard.
On peut le garder. »
Voilà. Oui, puis forcément, une fois que tu as détruit l'environnement, on ne va pas demander à l'industriel de réparer le tout.
Si ça ne répare pas l'environnement.
Non, malheureusement, j'allais dire. Sinon, toujours dans l'environnement, alors je n'ai pas trop détaillé, mais on a la privatisation de l'ONF, l'Office national des forêts. Alors ça, c'est vraiment c'est un coup de massue aussi, hein, parce que du coup, on a ces agents assermentés de l'État qui, justement, sont là pour la protection, la bienveillance et la transmission, on va dire, et la préservation de la nature. On va passer maintenant à une privatisation avec des entreprises privées qui vont avoir aussi un rôle d'agents assermentés.
C'est une vieille demande des possesseurs de forêts. Ça fait des années qu'en fait, ils demandent à ce que l'ONF soit privatisé. Bah pourquoi ? Parce que quand c'est privatisé, c'est vous qui avez la main dessus. Donc, on va bien mettre des règles, mais vous les interprétez un peu comme vous voulez. Et c'est notamment des grands forestiers en France. On a parmi les plus grands forestiers d'Europe qui demandent ça parce qu'ils disent que les normes sont vachement contraignantes. On est obligé d'attendre qu'un arbre il soit à maturité pour le couper. Voilà, et en fait, en réalité, c'est un vrai désastre parce que ça veut dire que même les parcs nationaux, par exemple, aujourd'hui vont se retrouver privés de gens qui peuvent les entretenir, entre guillemets, et les sécuriser. Et ça, c'est hyper grave. Enfin, ça a l'air comme ça de rien, mais c'est hyper grave, franchement.
Bien sûr, parce qu'au nom de la rentabilité, en fait, il y aura des territoires qui seront complètement délaissés. On connaît très bien par rapport au chemin de fer, hein, avec des régions qui sont complètement abandonnées parce que ce n'est plus rentable. Et il y aura des endroits à laisser à l'abandon et pas du tout sécurisés pour les Français et les Françaises qui veulent justement profiter de cette nature, par exemple.
Ouais, mais je pense aussi que c'est un moyen d'entériner le fait que la forêt est un business et qu'il faut simplifier absolument toute notion de faire du business. En fait, là, on sent dans tout ce que tu nous as donné, là, c'est vraiment une simplification des affaires, en fait. C'est ça qui est quand même hyper intéressant. C'est-à-dire que là où on pourrait se dire, tiens, effectivement, en France, l'administration, quand même, il y a des fois, on est quand même dans des trucs assez dingues où tu dis, mais ça n'a pas de sens. Mais eux, ils partent de la simplification administrative et de l'action publique, en fait, à la simplification d'entreprendre, en fait, quoi. Et ce qui n'est absolument pas du tout la même chose, quoi. Et ça, c'est la force du politique et du pouvoir. Hein. Ils sont forts.
Bah, j'en reviens à ce que je disais au tout début, à qui profite tout ça, hein. Je vais rajouter aussi quelque chose avant de passer sur un autre versant de ce projet de loi et qui complète un peu ce que je viens de dire. C'est par rapport à la concertation publique. Là, j'en parlais tout à l'heure. Pour beaucoup, on pourrait croire que cela n'a pas de poids, hein, mais en réalité, elles peuvent vraiment faire changer les choses. Mais pour l'État, c'est un frein pour le gouvernement parce qu'il explique en fait que les procédures de participation font perdre du temps. Ce qui est faux, hein. Ce n'est pas le temps de débat public qui retarde les projets, puisque au niveau de la loi, il y a un temps contraint. ce sont les temps d'arbitrage et de décision qui sont extrêmement longs derrière. Et en France, en fait, il y a la CNDP, hein, donc l'instance administrative et indépendante créée en 1995, renforcée en 2002, et tient une place importante dans le débat public et qui est très utile. En fait, par exemple, depuis 2002, hein, plus de 130 projets ont fait l'objet donc, d'une concertation ou d'un débat donc, organisé par cette instance. Et nombreux sont les projets qui ont été modifiés, près d'une dizaine ont même été abandonnés, par exemple le cas en 2007 pour les grands projets de contournement autoroutier de Toulouse et le terminal méthanier sur la commune de Verdun-sur-Mer, par exemple. Là, on était sur le versant environnement, mais je vais passer aussi sur un autre versant qui est celui de la petite enfance, parce que en fait, le projet de loi ASAP, comme je le disais, facilite tout, mais surtout... surtout les versants de la vie quotidienne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a eu un appel à la grève et des rassemblements un peu partout, en fait, ce jeudi 3, à l'appel de la CGT qui a appelé donc à la grève ce jeudi au sein d'un intersyndical formé avec la SUPAP-FSU et l'UCP Petite Enfance. La CGT dénonce dans son courrier que la loi ASAP et son article 36 permettent au gouvernement de procéder par ordonnance à la simplification des normes d'accueil du jeune enfant. Tout cela s'annonce donc en défaveur de la qualité d'accueil des enfants et des conditions de travail des personnels. Je vous explique. Il prévoit par exemple un ratio de 6 enfants par adulte pour les enfants marchands. On est un peu bien parce qu'on était à 8 à l'heure actuelle. Donc là, c'est une petite avancée. Mais en fait, le plus gros, c'est que finalement, pour les non-marchands, on reste à 6, ce qui est énorme en fait. Du coup, il y a une dégradation pour les plus petits, hein, notamment les bébés. Et le texte prévoit aussi une souplesse en cas de surnombre d'enfants. L'inquiétude face à la diminution du nombre de professionnels diplômés aussi pour l'encadrement des enfants. On a une augmentation donc du coup par conséquence du ratio. Donc on a plus d'enfants pour un nombre limité d'adultes. On a un accueil en surnombre qui est maintenant possible. Tous les jours. On a l'accueil jusqu'à 16 enfants dans les micro-crèches. Ce qu'on n'avait pas avant, mais qui va être autorisé, et ça, c'est depuis qu'il y a eu le premier confinement, c'est l'accueil de 3 enfants par une professionnelle seule avant 8 heures et après 18 heures. Sachant que la loi, avant qu'elle ne passe, c'était obligatoirement 2 adultes pour le premier enfant accueilli. Mmh. Voilà. Là, on passe à un adulte pour 3 enfants accueillis avant 8 heures et après 18 heures. Pour faciliter bien sûr l'accueil et pour que les papas et mamans et quiconque aillent travailler tranquillement.
Ben moi, je te coupe vite fait, mais moi je me souviens, j'ai bossé avec des enfants dans l'animation. En fait, déjà à cette époque-là, il y avait des choses comme ça qui changeaient, en fait. L'encadrement a changé, etc. Et en fait, là aussi, de nouveau dans une logique purement économique,
et pas
du tout dans le bien-être des individus, des enfants, etc. Parce que oui, en fait, c'est une responsabilité quand même des enfants, enfin, ils transmettent des choses. Et qu'en fait, là encore une fois, sur des choses qui sont quand même, c'est une lecture purement économique et ça cherche pas plus loin, quoi.
Bon, on essaye de rationaliser en fait ces établissements pour qu'ils accueillent le plus possible des enfants dans des cages, en fait, tout simplement. Parce que, et quand je dis cage, je ne plaisante pas, puisque en fait, on va réduire la surface d'accueil. Avant, on avait l'accueil d'un enfant pour 7 mètres carrés, là, on passe à 5,5 mètres carrés. Il faut en passer. On a l'administration de médicaments par des personnels non qualifiés. On va donner cette responsabilité à des personnes qui n'ont peut-être jamais travaillé dans le médical ou dans le paramédical, à donner des traitements, même s'il y a une ordonnance, même si on a l'accord des parents. Mais ça, quand même, ça responsabilise, ça donne davantage de pression aussi au personnel. On a aussi cette dégradation de l'accueil des enfants, la volonté d'imposer une rentabilité, tout simplement, et la productivité de ces établissements d'accueil. Voilà. La France, il ne faut pas l'oublier, est un des pays de l'OCDE où le taux d'encadrement est le moins favorable aux enfants. En fait, le problème des crèches, il faut le savoir, ou des micro-crèches, ce n'est pas seulement de garder en toute sécurité, hein, mais c'est de faire aussi de la pédagogie. Même si on n'est pas dans une structure scolaire où il y a des professeurs, ça reste quand même l'accueil d'enfants avec des professionnels qui sont diplômés, qui peuvent transmettre des savoirs et apprendre à l'enfant. Là, on n'est plus du tout dans cette logique. Alors, c'est sûr que pour l'État, les enfants ne rapportent pas, hein, on est d'accord, hein, et que les crèches coûtent cher. Donc là, vous avez une équation qui est compliquée pour le gouvernement. Et notamment, alors ceci, malgré que l'État ait reconnu que la petite enfance était un domaine essentiel.
Non, mais c'est essentiel.
Faire tourner le pays.
Ouais, parce que c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en France, on part du principe que des enfants gardés, c'est des adultes qui vont travailler.
Exactement.
Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils voient l'essentiel. C'est pas l'essentiel au sens bien-être de l'enfant.
Non, et ça, c'est clairement le cas. En fait, tout ce qui est question, donc là, j'en parlais de l'environnement, là, de la jeunesse, en fait, sont souvent mises en avant dans les discours. En fait, voilà, pour parler, on a des beaux discours à l'Assemblée sur le bien-être des enfants, mais en réalité, ce sont toujours des considérations économiques qui prennent le dessus. Alors après, je pourrais parler encore d'autres articles de loi, mais je crois que le temps imparti arrive bientôt à la fin. Mais on peut parler, par exemple, des squatteurs. Hein. On en parlait tout à l'heure à la prépa. Effectivement, on a des articles de loi maintenant pour durcir et évincer et puis expulser des squatteurs qui viendraient occuper des logements secondaires. Alors, il faut savoir qu'un squatteur, s'il occupe un logement, ce n'est pas pour le plaisir d'embêter, mais c'est vraiment pour trouver un endroit où se loger et ne pas se retrouver dans la rue. Là, on va faciliter les choses et ne plus passer devant le juge et pouvoir juste expulser manu militari sans sommation.
Ce qu'il y a, c'est qu'on fait l'inverse en fait de ce qui devrait être fait. C'est-à-dire que on sait qu'en France, on a à peu près 300 000 personnes qui vivent à la rue, dont sur ces 300 000 personnes, il y a à peu près 30 000 enfants hein, quand même pour que les gens aient quand même ce chiffre-là dans la tête. Et en fait, c'est pas très compliqué de les loger, parce qu'il y a 3 millions à 4 millions de logements vacants en France. Et là, quand je parle de logements vacants, c'est qu'ils sont jamais utilisés.
Quasi, ouais.
Et en réalité, on est en train de créer encore des délits de délits de délits pour bien être sûr que ces indigents-là viennent pas nous faire chier et restent bien dans la rue. Et c'est ça, moi, qui me fout vraiment en colère, c'est que, encore une fois, on va protéger la propriété privée au détriment, en réalité, du bien-être de l'humanité. Et encore une fois, on va montrer du doigt des gens qui cherchent des solutions, parfois dans l'urgence, parfois de façon, certes, pas forcément agréable, c'est un fait. Mais il y a un moment donné, il faut prendre le problème dans l'autre sens, c'est de se dire, mais comment ça se fait qu'en France, cinquième ou sixième puissance économique mondiale, avec un PIB qui avoisine les 3 100 milliards d'euros par an, on a 30 000 gamins qui dorment dans les rues et 300 000 personnes qu'on ne peut pas loger. Quand on sera posé vraiment cette question, on pourra faire des lois pour protéger les résidences secondaires. Mais avant, je trouve ça très indécent.
Mais ce qui est merveilleux toujours, c'est ça, c'est cette proportion, j'ai pas le
Oh
mot,
là là.
propension.
Ouais, cette capacité pour les politiques finalement à toujours, en fait, toujours faire des lois contre les pauvres, contre les exclus, contre les précaires, contre finalement aussi justement, tu disais le bien vivre, enfin le commun,
Simplement
etc.
l'humanité.
Et toujours en fait, et ils n'ont encore jamais trouvé en fait de solution malgré toute leur grosse capacité à lutter contre la pauvreté et
Mais
donc
non,
pour une
mais ça
répartition des
c'est...
richesses différentes. Et donc on voit bien finalement leur position et leurs intentions. Ils sont là pour perpétuer, alors c'est mon point de vue, hein, mais pour perpétuer leur classe sociale. Et parce que pour qu'il y ait toujours des riches, il faudra toujours qu'il y ait des exploités. Et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier. Et que leur mission à tous les gouvernants, alors là, quelles que soient leurs étiquettes, je crois qu'ils se tirent plus la bourre qu'autre chose, mais ils ont tous à peu près les mêmes ambitions, c'est toujours la même chose, quoi. Et après, c'est peut-être la question qu'il faut qu'on se retourne aussi à nous-mêmes, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce
C'est
qu'on n'est
ça,
pas aussi
effectivement.
fautif, en fait, de la perpétuation de cette société par le fait d'aller voter tous les 5 ans, etc., etc., quoi? Enfin bref, je déborde
C'est
un
un
peu,
long
mais.
débat, mais oui, exactement. Après, c'est vrai que heureusement que des individus sont présents et se soulèvent et que des associations aussi existent, hein. Mais ça, après, ça sera sur un autre sujet. On pourra faire une petite coupure musicale, éventuellement,
Yes,
non, sauf si tu voulais dire quelque chose.
ouais, avant, je vous conseille juste la lecture d'une excellente brochure qui s'appelle Squat the World, et voilà, squat comme squatter, et qui est très très bien, et ce qui explique justement ce que c'est que la propriété privée, pourquoi c'est la propriété privée en premier lieu qui crée la pauvreté et l'exclusion. Voilà, et donc on se fait une petite coupure musicale.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Les enfants des chômeurs, des sans-abri, des RNistes reçoivent le meilleur de ce qui passe sur nos listes. Couverts de pieds en cap, de vêtements des grandes marques, fini le handicap, et bien malin qui les remarque, ça gêne beaucoup moins, et quand ils se lavent les mains, je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants des vrais. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique, Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, y en a qui sentent la lavande. Leur faire la charité, moi j'aurais peur de les vexer. Entre nous, eh bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage, il y avait des taudis qui déparaient le paysage. Il devait s'y passer les choses que l'on imagine. On ne pouvait laisser proliférer cette vermine. On les a remplacés par des immeubles polissés. Ce qu'on a fait des habitants qui sont relogés depuis longtemps. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Quand ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte. Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte. Il y a des endroits où on peut arranger les choses. Et tout le monde croit qu'en ce moment, elle se repose. Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé. Mais tout de même assez mignon, ça sera mieux pour l'adoption. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Mon fils qui est très beau va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires. Il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage. J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge. Il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison. Mais s'il avait des goûts pervers, je le saurais, je suis sa mère. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Je suis sollicité par les œuvres de la paroisse. Je suis trop occupé pour éprouver la moindre angoisse. Je me lève très tôt pour attraper la première messe. Puis dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses. Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien. Car j'ai un cœur très généreux, mais j'ai l'impression, c'est curieux, que ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
Et vous êtes bien de retour sur La Causerie au 102.2 sur Radio Canu. Émission enregistrée, comme on l'a dit, ce samedi 5 décembre. Hein. Maintenant, il est plus de 16 heures passées. nous venons d'écouter du coup un titre de Anne Sylvestre que j'ai personnellement choisi, que j'aime beaucoup. C'est celui de « Ça ne se voit pas du tout ». Après ce premier sujet, nous allons passer sur un autre. Hein. C'est Jean-Yves qui s'y colle.
C'est ça. Et bien, ce soir, j'avais envie de vous causer du 3919. Vous savez, le numéro d'écoute et d'aide aux femmes victimes de violences. Alors, vite fait, avant d'aller plus loin, quand même, quelques rappels, en fait, parce qu'on a le droit de ne pas savoir ou de ne pas connaître les choses. Mais il y a toujours un temps où on peut apprendre. Donc, ça a été créé, en fait, en 1992 par la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Et le numéro, en fait, donc le 3919, est donc le numéro national d'aide aux victimes, aux femmes victimes de violences, qu'elles soient conjugales, sexuelles ou professionnelles. L'appel est anonyme, gratuit et peut être réalisé par des proches ou des témoins. Aujourd'hui encore, hein, c'est la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui gère toujours le 3919. Et la fédération, donc, on va la raccourcir, on va dire la FNSF. Ben, elle regroupe, en fait, en 2020, elle regroupe 73 associations réparties sur tout le territoire. Donc, c'est vraiment une grosse structure, enfin, qui a des capacités de réponse et d'aide, quoi. Et donc, les associations hein, de solidarité femmes, elles accompagnent chaque année plus de 35 000 femmes victimes. Elles hébergent plus de 3 000 femmes et autant d'enfants tous les ans, enfin, par an. Elles proposent donc aux femmes un accompagnement spécialisé et professionnel qui prend en compte toutes les conséquences des violences. Tant sur sur leur santé physique et psychique, sur le plan social, économique et juridique, et vu que c'est sur tout le territoire, au plus près des lieux de résidence des femmes victimes. Ça, c'est hyper important aussi, je crois. Donc, le nombre d'appels, hein, alors lui, depuis 92, en fait, hein, ça ne cesse d'être en hausse, en fait, d'année en année. Et encore plus, vous l'imaginez bien, quand il y a un confinement, même si ça n'arrive pas tous les ans, hein, évidemment. Mais donc, l'association, quand même, elle prend en charge 2000 femmes en détresse chaque semaine. Et elle a signalé, durant le premier confinement, être passée à 7000 femmes par semaine.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc, voilà les petits rappels quand même que je pense utiles. Et donc, pourquoi vous causez d'un numéro de téléphone, quoi ? Enfin, je veux dire, j'avais pas autre chose à faire. Alors, bah non. Parce qu'actuellement, alors, il faut savoir que le numéro, il est accessible donc, toute la semaine, mais uniquement en journée, en fait. Donc, de 9h à 22h du lundi au vendredi, et de 9h à 18h les samedis, dimanches et les jours fériés. Mais comme vous le savez aussi, je l'espère évidemment, il y a eu en 2019, hein, du 3 septembre au 25 novembre, un truc appelé Grenelle contre les violences conjugales. L'État allait prendre pleinement conscience de l'urgence d'agir et il allait agir. Bon, comme souvent, hein, on a l'effet d'annonce et il y a la réalité. Et c'est le cas en fait pour le 39-19. Parce que le 25 novembre 2019, donc, il y a un peu plus d'un an, le premier sinistre de l'époque, un certain Édouard Philippe, a annoncé des mesures issues de ce Grenelle, dont celle de passer le 39-19 en 24-24, 7 jours sur 7. Ça, c'est, enfin, moi, je pense que c'est génial et c'est très bien. En mars dernier, donc en 2020, hein, donc novembre 2019, là on passe à mars 2020, il y a donc Marlène Schiappa, pardon, qui alors était secrétaire d'État en charge de l'égalité, elle promettait l'arrivée de cette mesure en fin d'année. Donc là, là, tout maintenant. Bon, finalement, ça sera que à l'été 2021.
C'est à cause du Covid. Non, mais c'est ça ce qui est drôle.
C'est un bon dos, hein.
On peut passer des lois pendant le Covid, mais on ne peut pas mettre en place rapidement un numéro 24-24.
Et quand je parlais en présentant le truc de la prise de conscience, hein, de l'État d'agir rapidement, bon, il a une notion de l'urgence assez relative, hein. Il y a plus urgent, effectivement, de sauver les propriétaires et les industriels que les femmes victimes, hein, finalement. Tout est relatif chez eux. Et donc... Mais le gouvernement, donc, à travers les annonces de Marlène Schiappa, puis d'Elisabeth Moreno, actuelle ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme, eh ben, a décidé de mettre en concurrence le réseau qui gère le 39-19 via la création d'un marché public. Ou comment appliquer les lois du marché, finalement, à une cause d'intérêt général, quand même, hein, la lutte contre les violences et la protection des femmes. Enfin, je ne sais pas, il me semblerait quand même que
C'est assez malsain.
Assez, on peut dire ça.
On peut pas dire autre chose.
Alors que l'écoute, en fait, hein, c'est vraiment le premier jalon de la relation de confiance. Et ça, c'est vraiment, standardiser l'appel vers du quantitatif, c'est le risque. Hein, c'est nombre d'appels répondus, temps moyen passé par appel. Enfin, vraiment une notion de rationaliser les choses, quoi. C'est une aberration, en fait. Fondamentalement, la discussion, l'écoute, ça prend du temps. Parce que vous n'avez pas une victime, enfin, toutes les victimes sont différentes, elles ont toutes leurs cas particuliers et elles ont toutes une personnalité. Certaines vont peut-être avoir une plus grande facilité à parler et à dire ce qu'elles ont, d'autres ça prendra plus de temps. Donc on ne peut pas standardiser, ça c'est pas possible quoi. Ouais, MK, tu voulais dire un truc.
Donc là on est sur quelque chose où l'État va s'approprier en fait un numéro, il va pouvoir ensuite manier les chiffres pour dire ah bah tiens regardez, depuis qu'on est à la tête de ce numéro, voilà tant d'appels auxquels on a répondu, voilà les actions qu'on a faites derrière, mais en fait c'est juste des chiffres pour lesquels ils veulent se vanter derrière quoi.
C'est toute la question qu'on peut se poser avec cette envie profonde de reprendre en main ce numéro. Enfin, il y a quelque chose quand même qui moi, enfin, mais je reviendrai derrière un petit peu sur mon angle de, enfin, mon point de vue. Et pour rappel justement, enfin, par rapport à cette notion de relation de confiance qui s'établit avec le temps, avec le dialogue, etc. Pour toutes celles et ceux qui connaissent finalement la situation des femmes victimes de violences, elles savent comment le chemin à parcourir peut être long. Peut-être long, il ne l'est pas forcément, mais il peut l'être. Et donc, la qualité, finalement, de l'accompagnement lors des premiers instants est vraiment cruciale, en fait. Je veux dire, enfin, s'imaginer qu'une victime qui ne se sent pas écoutée, je ne suis pas sûr qu'elle va rappeler, quoi. Si elle se sent juste un numéro sur un listing, enfin, il y a quelque chose de déshumanisant, quoi. Donc, une victime qui a été déshumanisée, finalement, rendue à l'état d'objet, continue de l'être en fait par cette formidable approche qu'a l'État, quoi. Enfin bref. Donc cette logique de rendement, en fait, elle a absolument aucun sens. Et c'est absolument horrible, quoi. Alors, il faut savoir aussi que il y a la présidente, en fait, de la Fédération nationale donc Solidarité Femmes, qui, lors d'une interview au site France Info, se disait incapable, en fait, de comprendre les motivations du gouvernement. En fait, alors elle déclare, elle dit « Le seul argument qu'on nous a donné n'est pas recevable. L'État parle du fait qu'avec 100% de subventions, il faudrait passer un marché public. » Et elle continue. Or, actuellement, nous sommes à environ 79% de subventions. Il nous reste, et le reste nous vient de dons privés. Donc, il n'y a pas d'obligation à faire un marché public. Nous n'avons pas eu d'autres arguments juridiques suffisamment valables pour nous permettre de comprendre pourquoi un marché public devrait être obligatoire. Nous sommes dans l'incompréhension totale.
On peut supposer, comme ça, que bizarrement, le fait que ce collectif ait critiqué le Grenelle des violences faites aux femmes et ait critiqué l'action de Marlène Schiappa n'est peut-être pas forcément, étrangère à cette volonté de leur retirer la gestion de ce numéro. Mais ça, ce n'est qu'une supputation de ma part.
Le gouvernement se vexerait-il par hasard ?
Oh, ça ne lui arrive jamais,
ça voyons. Ça ne ressemble pas aux puissants. Ils ont un ego pas si gonflé que ça. Voilà. Ah si, on me dit à l'oreille que c'est... Donc voilà, la situation, hein, c'est génial. Donc, on a donc un État qui n'a pas fait grand-chose, pour ne pas dire rien, en fait, ces dernières années, ces décennies passées, contre les violences faites aux femmes, et qui d'un coup organise son réveil, hein, son éveil avec un Grenelle, un État qui déclare l'urgence d'agir, et pour cela il mettra environ un an et demi, pour passer donc le 39-19 en 24 heures sur 24 et en 7 jours sur 7, et en plus, il vise à évincer celles qui prennent en charge, qui gèrent un numéro depuis des décennies, pour nous montrer sûrement qu'il prend à bras le corps ce combat qu'il a tant délaissé en fait. Donc, et le tout avec des raisons, franchement, qui dépassent la logique de l'urgence, de la solidarité et de l'entraide, mais qui sont, selon moi, hein, en total accord, finalement, ces raisons avec l'autoritarisme de l'État, son centralisme, son contrôle et son adoration pour la logique du fric, de la rationalisation, de la standardisation, quoi. C'est vraiment, enfin, pour moi, il y a vraiment une logique d'État. Alors ça, c'est peut-être parce que j'ai mes défauts de lecture anarchiste, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose là derrière, de l'État qui prend en main quelque chose. Et il va évincer tout le reste. Il écrit son propre roman. Dans 50 ans, ils pourront dire « l'État s'est rendu compte de la violence, etc. » Alors qu'en fait, dans les faits aujourd'hui, en fait, l'État, sans lui, les féministes et les assos se débrouillaient.
Ça fait une semaine qu'on nous rabâche les oreilles que ce serait Valérie Giscard d'Estaing qui aurait donné le droit à l'avortement, en nous disant que c'est la lutte des femmes en fait qui a permis d'accéder au droit à l'avortement, et les millions de femmes qui étaient dans la rue et qui ont fait pression de pendant des dizaines d'années. Et voilà. Et c'est exactement typiquement ce genre de truc-là, la réécriture de l'histoire, c'est quand d'un seul coup on dit l'État a donné, non l'État a pas donné, l'État a cédé. C'est pas la même chose.
C'est exactement ça. Pour moi, il y a vraiment des parallèles assez évidents, en fait. Donc voilà, donc évidemment, enfin, c'est mon point de vue, il faut soutenir la Fédération nationale Solidarité Femmes, il faut soutenir le 39-19. Il faut absolument que ce réseau continue de gérer le 39-19, parce qu'elles le font depuis 30 ans.
Et elles le font bien.
Et elles le font bien. Donc je vois pas pourquoi, en fait, d'un coup, l'État, cet autoritaire, viendrait foutre les pattes. Et l'État, en fait, la seule chose à rigueur qu'on lui demande, c'est de filer du fric et qu'il ferme sa gueule, en fait. Parce que les gens le géraient très bien sans lui, en fait. Mmh. La seule problématique qu'il y a toujours dans le milieu associatif, c'est la thune. Et ça, on le sait très bien. C'est un vrai problème. Donc là, effectivement, qu'est-ce qui empêche de rester sur ce financement à 79% de subvention? Et le reste, moi, je fais entièrement confiance au réseau militant, associatif, féministe et pas que, pour filer suffisamment de thunes pour que le 39-19... ils puissent rester à 79% de subventions et le reste en dons et gérer 24-24 et 7 jours sur 7. Elles ont absolument les capacités de le faire, quoi. Enfin bref, c'est... Voilà, bref. Donc évidemment, il y a une... C'est un peu le truc du temps en ce moment. Il y a une pétition qui est en ligne. Moi, je propose qu'on la mette sur le blog. Comme ça, celles et ceux qui veulent apporter cette signature en plus le fassent. Même si ça ne changera pas tout, mais en tout cas, ça fera du chiffre. Enfin du nombre, et voilà. Et après, ça c'est un petit souhait que j'ai perso, mais c'est vraiment pour finir et pour le pour vous laisser après à vos réflexions, j'aimerais vraiment qu'un jour, et je l'espère, et on me dit que l'espoir fait vivre, donc je perds pas.
Moi, tu vas vivre longtemps comme moi. Tous les trois d'ailleurs avec Anika. Ouais,
on espère beaucoup, effectivement.
Nous on est partis tous les trois pour vivre pendant très longtemps.
Ouais, ça doit être ouais. Ça. Et bien qu'on pousse en fait les réflexions plus loin en fait. Parce que, et qu'on réfléchisse vraiment en fait au rôle de l'État, à son utilité ou à son inutilité, je le pense vraiment, si ce n'est en fait finalement pour détruire ce qui existe et fonctionne déjà. Enfin, c'est quand même assez incroyable dans ce cas-là, mais comme dans plein d'autres en fait. Fondamentalement, je pense que dans l'histoire de l'État et tout ça, on peut vraiment trouver plein de cas comme ça. Mmh. Et que je pense fondamentalement qu'à ne pas pousser les réflexions plus loin, c'est un peu un cercle continu, quoi, vicieux. C'est-à-dire vicieux, et on se bouffe la queue, en fait. Et que vraiment, enfin, j'ose espérer qu'un jour, on essaiera de réfléchir plus loin, en sachant et en regardant le monde qu'il est. S'il n'y avait pas les associations aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'auraient pas à bouffer. S'il n'y avait pas des gens qui ouvraient des squats, des lieux, des gens qui militent, en fait, il y aurait plein de gens qui crèveraient encore plus, en fait. Et que l'État, il fait quoi dans tout ça? Eh ben, on l'a vu, finalement, c'est merveilleux le sujet que tu as fait avant. On voit, en fait, ce que fait l'État. Il favorise les propriétaires, il favorise les industriels, il favorise l'économie en fait. Donc voilà, je pense que faut pousser les réflexions un peu plus loin. Mais ça c'est...
Tu voudrais dire que l'État moderne, cette création de la bourgeoisie, serait là pour protéger les bourgeois. Bon alors dis donc, il se passe de ces trucs.
En même temps, êtes prévenus, hein, dans l'esprit de la causerie, il y a un esprit un peu libertaire, anarchiste.
Voilà.
On ne nous aura pas menti, mais voilà, donc...
Quand même, et on continuera à le faire, d'ailleurs.
Ah, mais alors, évidemment.
Enfin, tant qu'on ne nous aura pas coupé l'antenne, en tout cas.
Donc, hein, on rappelle, 3919, soutenir le réseau de la Fédération... Ouais. Fédération Nationale Solidarité Femmes.
Et on mettra en lien la pétition, si vous voulez ajouter votre voix à celle de milliers d'autres.
C'est tout à fait ça. Eh bien, si vous n'avez rien à rajouter...
Une petite pause musicale.
Allez.
Et il paraît que c'est un Sylvestre encore.
Il paraît.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, s'ils ont des seins, quoi. Il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure, petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure, petit voisin, petit professeur, même baladeuse, petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite, elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade, petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermer les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. c'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur le 102.2 sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter, comme on l'a précisé, une playlist complète d'Anne Sylvestre. Et là, on vient de s'écouter donc juste une femme. Et c'est Fab qui prend la suite de l'émission et tu nous parles d'une grande colère en Inde.
Ouais, je vais vous emmener en Inde ce soir. Alors, on va un peu revenir en arrière. On se souvient donc que Narendra Modi, l'actuel Premier ministre de l'Inde. Alors, je rappelle qu'en Inde, le Premier ministre, c'est celui qui a le pouvoir exécutif. Il y a un président ou une présidente en Inde, mais qui a très, très peu de pouvoir. Elle est arrivée au pouvoir en 2014 à la tête d'un parti et d'une coalition d'extrême droite hindouiste avec le soutien et l'aide des branches les plus réactionnaires de la religion hindouiste. Sa campagne s'est appuyée en grande partie sur une opposition entre les villes et les gens déconnectés de l'Inde réelle versus la campagne où le bon sens réside et où l'âme de l'Inde existe vraiment. Voilà, c'était un peu sa campagne comme ça qu'il la menait. Et entre donc les vrais Indiens, donc les hindous acceptant le système de caste, évidemment, et les autres, en particulier les musulmans, qui lui servent de bouc émissaire depuis des années. C'est un classique de l'extrême droite mondiale, donc on n'est pas vraiment surpris de la façon dont il argumente les choses. Bon, bah, là-bas en Inde, c'est comme ça. En France, on en a d'autres qui font à peu près la même chose, mais en utilisant aussi les musulmans. Bon, alors, évidemment, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est un programme fortement libéral, économique et de privatisation massive qu'il met en œuvre. Je rappellerai que dans l'histoire, à chaque fois que les fachos arrivent au pouvoir, c'est généralement pour libéraliser l'économie. Ils ont rarement fait l'inverse.
Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le fascisme, en fait, est l'étape avancée du capitalisme.
C'est ça.
En fait, c'est un allié du capitalisme, le fascisme. Mmh. C'est pas du tout un ennemi du capitalisme.
Ah, loin de ça. Alors, très loin, quand même, de la fierté nationale qu'il prônait, ce brave Modi, quand même, mais qui permet à ses amis, à la tête de bien des entreprises privées indiennes, de se remplir les poches. L'arrivée de la crise économique en 2017, parce que du coup, l'Inde voit ses prix monter extrêmement vite, oui, parce que quand on privatise tout, généralement les prix montent, au détriment des plus pauvres, et la modernisation des industries aussi, qui va faire exploser le chômage, parce qu'en fait on modernise l'industrie, on l'automatise, mais on ne réduit pas le temps de travail. Et quand vous ne réduisez pas le temps de travail et que vous modernisez l'industrie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se retrouvent à ne pas avoir de travail. Donc du coup, ça accentue les difficultés. Alors les difficultés, pas pour les riches, plutôt pour les pauvres.
Sans se redouter.
Donc depuis, c'est de pire en pire. Et ce que redoutait Modi, parce qu'il avait écrit un texte il y a 3 ans dans un journal en disant « J'espère que nous ne reverrons jamais à réémerger les syndicats en Inde », pas de bol pour lui, et grande bol pour les salariés et les travailleurs, c'est le retour des syndicats puissants en Inde. Ils sont plutôt d'essence marxiste et anarchiste. Alors je vous dis, ça bastonne pas mal, c'est pas du syndicat tranquille.
Enfin, pas dans la demi-mesure.
Voilà, alors il a créé le BJP, le parti dont est issu Modi, a créé un syndicat maison quand même pour mettre en place des syndicats qui étaient proches du pouvoir. Bon, ça prend pas trop. Mais en tout cas, ils sont là, ils existent, ce syndicat-là. Et donc, c'est donc depuis 2017 des grèves à répétition qui ont lieu dans toute l'Inde. Et des grèves, quand on parle de grève en Inde, on parle de grève. C'est des moments assez forts. Mais ce qui n'avait pas encore eu lieu, c'était une grande union de toutes ces grèves. C'est-à-dire qu'au moment où, en fait, d'un seul coup, on va tous ensemble. En prime, le milieu paysan indien, qui représente 50% des travailleurs en Inde. C'est assez énorme, mais c'est un travailleur sur deux travaille dans le milieu dit paysan. Ou de l'agriculture, en fait, il s'est joint au milieu ouvrier. Mais dites-moi, ça sent pas un peu la révolte de masse? Oui.
Non, je voulais juste rajouter, tu disais 50% effectivement dans le milieu rural, dans le milieu paysan, mais c'est par choix et des fois c'est par contrainte aussi que beaucoup de jeunes et beaucoup retournent auprès de la... des fermes, en tout cas des parents, pour aider, puisqu'effectivement, comme tu disais, avec l'automatisation et puis avec le chômage, même les grands diplômés se retrouvent effectivement à devoir revenir au terre natale, comme on dit.
Je ne faisais pas de jugement, mais simplement, c'est pour comprendre quand même que c'est assez important. Donc du coup, le 26 novembre 2020, il y a un appel à la grève qui est lancé par les syndicats et des associations. Et contre toute attente, Bah non seulement elle fonctionne, mais elle fonctionne au-delà de ce que les organisateurs et organisatrices avaient imaginé. Au point de devenir la plus grande grève du monde. Tout simplement, 250 millions de travailleurs en Inde ont cessé le travail le 26 novembre 2020. C'est-à-dire quasiment un travailleur sur deux.
C'est énorme.
Et une travailleuse sur deux. Après celle du 8 janvier, hein, qui avait déjà été estimée à 200 millions de personnes, ce qui était déjà assez énorme, on voit que le mouvement est très loin de faiblir. Parce qu'en fait, les organisateurs, ils pensaient que le 8 janvier, ça avait bien marché. Puis après, ça avait un peu cafouillé, parce que c'est toujours très compliqué quand quelque chose marche de le faire durer. On sait ce que c'est. Et puis finalement, ils se sont remis d'accord pour le 26 novembre. Et tout le monde se disait, ah, ça ne va pas avoir la même ampleur que le 8 janvier. Non, la preuve, c'était mieux. les causes de tout ça, l'ultralibéralisation de l'économie décidée par Modi plonge une grande partie de l'Inde dans la pauvreté et la précarité. C'est ajouté à cela un confinement face au Covid qui a été fait de façon extrêmement autoritaire et sans quasiment aucune aide d'État. Et attention, ça a été fait quasiment avec l'armée en Inde, donc on était vraiment dans de l'autoritarisme pur. On se souviendra tous des images, par exemple, de maisons qu'on clouait pour empêcher les gens de sortir de chez eux pendant 15 jours. C'est juste phénoménal. Résultat, 66% des travailleurs interrogés dans un sondage qui touchait 100 000 personnes déclarent avoir perdu leur emploi durant le confinement. 77% des ménages consomment moins de nourriture qu'avant. Et 64% ont vu leurs revenus diminuer. On va rappeler que l'Inde, sous Modi, a vu le code du travail être profondément repensé, le tout pour donner plus de pouvoir aux employeurs. Parce que c'était compliqué pour les employeurs, vous savez, pour être des entrepreneurs. Après les grèves des années 90, en Inde, le code du travail avait été adopté sur l'ensemble du territoire. Parce qu'avant, il existait selon les États. Là, il y avait eu enfin un code du travail unifié. Et en fait, comme c'est les grèves des années 90, ça avait déjà été des grèves assez dures, le code du travail était assez pas favorable, parce que c'est jamais favorable le code du travail, mais donnait des bases minimales pour l'embauche des salariés et pour leur exploitation. Donc c'est tout ça que Modi a enlevé. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs journalistes en Inde qui ont signé une tribune commune pour souligner que l'Inde pourrait voir réapparaître les grandes famines qu'elle a déjà connues, avec des millions de personnes touchées et des millions de morts à la clé. Si les négociations se sont lancées dans le secteur industriel, et parce que les patrons en fait ont dit « Oula, 250 millions de personnes, on va peut-être quand même commencer à les écouter un petit peu », surtout que je rappellerai juste qu'en 2016, il y a un patron qui a fini cramé, tout simplement. Ils ont un peu la trouille, ce qui est bien, des fois, d'avoir peur. Ils ont demandé la suspension du mouvement de grève. Donc, dans l'industrie, on est passé d'une grève dure à une grève du zèle. Donc, ça va moins vite, mais ça tourne quand même un peu. Et par contre, ils ont oublié les paysans. Parce que les paysans, on s'en fout. Or, le gouvernement Modi, il vient de décider, dans le cadre de ses accords commerciaux avec les USA et le Royaume-Uni, de totalement libéraliser, c'est-à-dire de mettre entre les mains du marché et de la bourse, les prix de l'agriculture qui étaient jusqu'à maintenant fixés et soutenus par un marché d'État. Et ça, ça datait de quoi ? Ça datait des grandes famines des années 90 pour éviter qu'on retombe dans ce système-là et que de nouveau des famines. Ce n'est pas la première fois que les paysans se font entendre. Les premiers à avoir fait grève, c'était les salariés du thé. Alors je vous rappellerai juste que le thé, c'est 9% du PIB de l'Inde. C'est énorme, ce n'est pas un petit secteur. C'est au moment où Modi, déjà lui, il fait assoupir l'application du Tea Plantation Labour Act. Alors en fait, c'était il y a quelques mois qu'il a fait carrément abroger cet acte de protection des travailleurs du thé. Comme le souligne Abhijit Majumdar, qui est le président du syndicat des travailleurs du thé, le syndicat s'appelle Tarai Sangrami, Cha. Depuis 1951, le Tea Plantation Labour Act existe. Il garantit en principe un salaire minimum, un logement et une école pour tous les enfants. Mais petit à petit, les employeurs ont pris une telle importance qu'ils peuvent refuser ces droits. Par exemple, aujourd'hui, ils payent seulement 2 euros pour une journée de travail. Vous vous rendez compte ? 2 euros pour aller travailler dans les plantations de thé, c'est pas grand-chose. Pour info, 2 euros, ça amène les gens au quart du seuil de pauvreté indien. Vous vous rendiez compte un petit peu. Parce que l'Inde, ce n'est pas un pays extrêmement pauvre non plus. C'est ce mouvement qui a réussi à lancer un mouvement uni et fédéré des paysans en Inde. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de chacun se battre dans leur coin, ils se sont dit « Oh, on va tous se battre ensemble, ça va être beaucoup plus efficace. » Et c'est donc des actions variées qui ont eu lieu. Alors d'abord, ça a été des blocages de lignes de chemin de fer. Ensuite, ça a été des blocages de matchs de cricket. Alors quand on dit ça, ça fait sourire, sauf que le cricket, c'est le sport national en Inde et ça brasse chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est pas un petit marché là non plus. Ils ont bloqué des entrepôts, mais aussi fait des interpellations musclées d'élus. Alors, quand je parle d'interpellation musclée, je dis, c'est pas comme en France où quand on dit t'es un con, on peut prendre des mois de prison parce qu'on a été très insultant. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Quand on parle de musclé, c'est musclé. Il y en a qui se sont fait bien secouer. Mais comme au bout de 2 mois, ils n'ont toujours pas été entendus, et après la très grande grève du 26 novembre, bah, ils se sont dit, il est temps qu'on se fasse entendre, on va marcher sur New Delhi. New Delhi, la capitale. Hein. Et pas quelques-uns, hein. Ce sont des centaines de milliers de paysans qui sont donc partis et qui sont arrivés aujourd'hui aux portes de la capitale. Voilà. Alors, d'après la police, ils ont le même problème de comptage qu'en France. Hein. D'après la police, ils seraient 20 000.
Ouais. Ah oui.
D'après les paysans qui se sont comptés, ils seraient 300 000.
Il y a un sacré...
C'est entre les deux. Voilà. Et donc, en fait, ils bloquent plusieurs axes malgré les axes routiers. Mmh. Malgré les très grandes violentes répressions, des très grandes et très violentes répressions policières. Alors, ils viennent des États voisins hein, de New Delhi. Alors, ils viennent du Punjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh. Et ils sont allés jusqu'à New Delhi. Alors, il faut savoir que le Punjab et l'Haryana, c'est les deux États qui fournissent la plupart de l'agriculture indienne. Donc, okay. En fait, c'est des États très, très agraires. Et quand eux, ils arrêtent de produire, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Inde, aujourd'hui, bah, il y a des produits qu'on n'a plus. Parce que les paysans, ils sont en train de bloquer la capitale, ils ne peuvent pas être partout. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que s'ajoute à ça un jeu politique qui est assez courant en Inde. Hein. Voilà. Alors déjà, les paysans, ils ont posé un truc, c'est qu'ils repartiront quand ils auront été entendus. Hein. Au moins, ça s'est posé. Voilà. Et le jeu politique, en fait, bah, c'est que c'est un État fédéral, l'Inde. Hein. Donc, on se rappelle, c'est des États qui sont fédérés ensemble pour créer l'Inde. Les États et les villes sont gérés par des mouvements différents. Et donc, des villes peuvent être gérées par un mouvement qui n'a rien à voir avec celui qui gère l'État et qui n'a rien à voir avec celui qui gère l'État au niveau national. Voilà, c'est très compliqué. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que les États et les villes qui sont opposés au BJP de Modi, ils ont encouragé, voire aidé les paysans. Et ceux qui sont proches de Modi et du BJP, qui est le parti de Modi, ils font tout pour leur couper la route et leur pourrir la vie. Et bien, figurez-vous que New Delhi est aux mains des opposants de Modi. Ah. Mais que l'État dans lequel se trouve New Delhi est aux mains du parti de Modi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'État a bloqué les paysans à l'entrée de la capitale, alors que la capitale dit, mais nous, on est prêts à leur laisser des terrains et à venir s'installer dans la capitale pour pouvoir protester. Et voilà, petit jeu politique. Voilà. Mais ça n'entame pas la détermination des manifestants. Hein. Comme le dit Buta Singh Chakar, hein, qui est venu, lui, du Punjab et qui est membre d'un syndicat agricole, il est bloqué avec d'autres aux portes de New Delhi et il dit tout simplement « Les réformes que veut faire passer le gouvernement de Narendra Modi vont nous mettre entre les mains des grandes entreprises, ce qui est vrai, cela va affecter tous les agriculteurs, nous respectons notre terre comme notre mère natale et nous allons nous battre pour nos droits. » Et alors, le journaliste qui a recueilli ces mots souligne que quand un Indien dit « nous allons nous battre », ce n'est pas juste faire grève. Oui. Voilà. Voilà donc depuis maintenant 3 semaines que l'Inde connaît ce dont on est beaucoup à rêver, c'est-à-dire une situation insurrectionnelle qui tient. Personne ne sait vers quoi cela va tourner, mais il est intéressant de suivre tout ça. Mais aussi un peu de changer l'image très raciste et négative que l'on a d'un pays qui serait arriéré et incapable de lutte de masse, incapable de dépasser le système de caste et autres. La preuve en est, quand on s'unit sur des bases de classe, bah bizarrement, on arrive très facilement à s'unir. Voir qu'on a sans doute même à apprendre des méthodes et des façons de faire, comme par exemple l'utilisation massive en Inde des réseaux sociaux et d'Internet pour les moyens en plus des moyens de diffusion habituels. Oui. Notamment, les paysans indiens, ils ont trouvé un super truc, c'est qu'ils se filment en direct. Comme ça, quand il y a de la répression, ben, c'est vu directement, vous voyez, c'est, voilà. Et c'est commenté. Et puis du coup, ça donne envie aux gens de venir les aider. Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un exemple. Donc, on peut que souhaiter au mouvement sans précédent que vilain d'aboutir. Pourquoi pas de voir disparaître Modi du pouvoir? Parce que franchement, s'il pouvait se débarrasser de cette espèce d'autocrate un peu farfelu et fou et fasciste, ce serait une bonne chose. Et de voir peut-être l'Inde prendre un virage social et écologique. Parce que dans ce qui est porté aujourd'hui par les paysans comme par les travailleurs de l'industrie, c'est l'idée de ne pas faire de l'Inde une Chine bis, c'est-à-dire un pays qui serait totalement dévasté au profit de l'exportation vers les pays riches. Donc on peut se dire que tout ça, bah ça sent bon, mais qu'il va falloir le suivre parce que ce n'est pas fini. Et tant mieux, si ce n'est pas fini, c'est que ce n'est pas encore vainqueur.
Terminé.
Vous êtes fort.
Voilà, du coup, je voulais juste vous parler de ça, parce que je trouvais très intéressant ce soulèvement, et que personne n'avait vu vraiment venir.
Mais c'est toujours intéressant d'observer ce qui se passe ailleurs dans le monde, hein, parce qu'on n'est pas, on vit pas sur un caillou séparé des autres, on vit tous sur le même caillou, et que donc c'est toujours intéressant, c'est lui qui se passe ailleurs, et les ampleurs et les manières de faire. Enfin, je veux dire, comme on a pu regarder ce qui se passait...
À Hong Kong,
etc. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a vraiment, il faut absolument ouvrir ses yeux pour autant les techniques de lutte que les revendications, etc. Parce que je pense qu'on a absolument des ponts à créer entre nous toutes et tous. Parce que finalement, on subit des systèmes qui sont absolument semblables. On subit tous le capitalisme à l'échelle mondiale, etc. Et en fait, la paysannerie que la France a pu connaître dans le passé, elle est sûrement passée aussi par des étapes comme les paysans aujourd'hui passent, quoi. Donc c'est vraiment hyper, enfin c'est toujours hyper intéressant, quoi.
Et juste une info, les travailleurs du thé indien vous proposent d'écrire à Lipton, hein, qui est le premier, voilà, et de leur écrire un petit mail s'ils ont un truc que vous pouvez écrire et de leur demander comment sont traités les travailleurs indiens dans vos champs. Voilà, juste vous pouvez d'être plein à poser cette question-là, parce qu'ils disent que finalement, bah, c'est aussi un moyen de faire pression de l'extérieur, en plus que eux qui font pression en faisant grève. Et en... voilà. Donc c'était juste, n'hésitez pas. Le site c'est lipton.fr. Donc, voilà. Je vais vous laisser un petit mot. Voilà.
Et ben voilà. On passe à la ou M4 avec quelque chose à dire.
Non, mais écoute, non, mais je n'ai rien à dire pour le moment. Il t'a dit.
Et ben on passe à la musique.
Allez, ben musique.
Quand il était encore bébé, Xavier. Voyant sa mère qui pouponnait son cadet, voulant tout faire comme maman, tendrement, longeait et berçait son ourson, sans façon. Vous voyez, qu'il était bien disposé. Mais les parents, apprenant, qu'il était tendre et maternel, plus rebelle, de tomber raccourci, sans merci, sur la pauvre maman tranquille, malhabile. Vous voyez, qu'elle n'y avait pas pensé. Ils lui prédirent avec terreur, quelle horreur, qu'il allait être, paraît-il, pas viril, dire qu'il fallait mettre aussitôt une auto dans les mains de ce petit mal anormal. Vous voyez, à quoi on peut échapper. Mon Xavier n'a pas protesté, pas pleuré, a enroulé vaille que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman, tendrement, puis il a fait faire dodo. Je dois pourtant vous rassurer sur Xavier. Il a passé sans avanie son permis. Ses sentiments pour son auto sont normaux. Tous ne peuvent pas en dire autant. Bien souvent, vous voyez, tout finit par s'arranger.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et donc ce soir, hommage à Anne Sylvestre, donc encore un titre d'Anne Sylvestre avec Xavier, et la preuve qu'elle savait parfaitement manier l'ironie. Et ben, on va se donner rendez-vous du coup à la semaine prochaine, parce que là, l'émission se termine.
Déjà pas...
Bah oui, on a un peu dépassé, pardon, tout ça. Et puis, bah, vous dire aussi que bon, on est très content et très heureux que vous continuiez à nous suivre malgré les conditions dans lesquelles on se trouve. Et habituez-vous à ce son un peu merdique, parce que jusqu'au 20 janvier, on est coincé. donc voilà.
C'est à peu près ça. Et ben ouais, rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi de regarder autour de vous les rassemblements qu'il peut y avoir pour différentes choses, mouvements sociaux, etc. Ça continue quand même de bouger par-ci, par-là, et plutôt beaucoup aussi autour de cette loi de sécurité globale. Donc voilà, n'hésitez pas, la lutte continue, même si elle est masquée.
Il y a même des rassemblements, j'allais dire excusez-moi, mais il y a même des rassemblements par rapport à cette loi ASAP, hein, justement de la petite enfance, où il y a déjà eu des rassemblements, mais qui est passé malheureusement inaperçu. Mais je pense que ça va continuer aussi, ça, de ce côté-là.
Et la preuve qu'on est des super-héros, c'est qu'on arrive à se battre masqué.
C'est tout à fait ça. Et bien, on va se quitter encore, évidemment, avec un titre de Anne Sylvestre.
Choisi par Clara.
Évidemment, elle avait aussi son choix. Et ce titre, c'est « Lâchez-moi ».
Voilà.
Peut-être un message, on ne sait pas.
Ben, c'est un joli titre pour se quitter.
C'est ça. Et bien, on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain, 22-23, sur l'antenne de Canu. Et puis, ben, bon courage à vous pour la semaine à venir. Et
exactement.
À bientôt.
Des bisous.
Ciao. Bisous.
Quand on a des emmerdements, quand on se cherche une maman, quand on a trop de sentiments, c'est pour moi. Quand les enfants sont pas gentils, quand on aime trop son mari ou qu'on voudrait qu'il soit parti, c'est pour moi. Quand on cherche en vain l'amitié, quand on ne peut pas s'exprimer, c'est pas pour la porte à côté, c'est pour moi. L'araignée qui cherche un régime, l'auteur qui court après sa rime, la bavarde qui fait du mime, cherchez pas, c'est pour moi. Lâchez-moi, j'ai déjà donné. J'en ai assez de vous bercer, il faudrait toute la journée que je materne. Lâchez-moi, ça finira mal. Je ne suis pas un confessionnal, c'est de l'invasion cérébrale, ça me consterne, j'ai mal. Mais ce qu'on voudrait voir fleurir, ce qu'on rêve avant de dormir, ce dont on aime le sourire, où sont-ils ? On ne les voit jamais pleurer, c'est à la pince à épiler qu'il faut leur tirer leurs secrets, c'est facile. Ils n'arrosent pas mon paillasson, apprennent tout seuls leurs leçons, ignorent vraiment sans façon leur nombril. Les qui n'ont pas le temps d'être tristes, les qui avouent quand on insiste que le bonheur parfois résiste, je les cherche. Sont-ils? Lâchez-moi, vous me piratez. En moi, vous prenez vos quartiers. En plus, vous me barricadez contre les autres. Lâchez-moi, car vous me ruinez. Moi, en matière d'amitié, je ne suis pas un gros banquier, mais j'ai mes pauvres cachés. À force de le répéter, je finirai par m'inventer un égoïsme forcené, vous verrez. Je boufferai le récepteur du téléphone et quel bonheur, j'assassinerai le facteur, vous verrez. Je ne vous écouterai plus, je vous laisserai vous pleurer dessus, là vous ne serez pas déçus, vous verrez. La grande sourde qui ricane, l'indifférence à l'œil qui plane, l'écluse qui a fermé ses vannes, ce sera moi, vous verrez. Lâchez-moi, laissez-moi souffler. Je ne suis pas votre bouée, apprenez plutôt à nager, c'est plus utile. Lâchez-moi, et peut-être un soir j'aurais envie de vous revoir, je dirais ils sont en retard, c'est difficile, mais j'en garde l'espoir.